Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le coup d'envoi du grand débat national a été donné cet après-midi en Normandie par le président français Emmanuel Macron. Les gilets jaunes qui avaient réussi à contourner les barrages étaient là pour l'accueillir et lui signifier qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter pendant ces consultations et aussi, et peut-être surtout, qu'ils n'ont pas l'intention de laisser ce débat très officiel vider de leur substance, leur journée de mobilisation depuis la mi-novembre. Car il faut bien le dire, le soupçon d'une grande opération de communication est là, il y a une certaine méfiance, des questions sur les questions, un débat sur le débat. Le grand débat national va-t-il servir à quelque chose? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Antoine Omé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire PS de Wittenheim, c'est tout près de Mulhouse dans le département du Haut-Rhin, et rapporteur de la commission des finances de l'Association des maires de France. Et Joël Zask, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en philosophie politique à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste en démocratie participative, auteur de Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation et Quand la place devient publique, c'est le dernier en 2018 aux éditions Le Bord de l'eau. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat, Antoine Omé?
Ce débat, il a été décidé par le président de la République dans la situation très grave que vit notre pays. Je voudrais rappeler que c'est aussi la conséquence, me semble-t-il, d'une pratique du pouvoir qui a été une pratique très, très classique, alors qu'il y a un besoin de participation. Donc on va parler des modalités, on va parler du rôle des maires, mais pour l'instant, avant de parler du fond, il faudrait déjà qu'on sache où on va, et on ne le sait pas vraiment. Nous sommes peu informés, nous le découvrons peu à peu sur les modalités d'organisation, et nous avons découvert dans la presse ou par les courriers les thèmes que le président de la République nous demande d'aborder. Je vais être bref, mais j'aurais souhaité, pour qu'on change de méthode, que ce grand débat soit préparé par une concertation avec les élus locaux, parce que décider que les gens vont débattre, c'est bien. Préparer les modalités du débat avec ceux avec lesquels on veut débattre, c'est mieux.
Vous attendez quoi, vous, Joël Zask, peut-être d'un point de vue plus de chercheur que vous êtes, de la mise en œuvre de ce débat?
Bon, on peut en attendre quand même beaucoup, puisque d'abord, ce débat n'est pas initié en quelque sorte par les pouvoirs publics, mais il a déjà commencé, et je crois que c'est important de le dire. C'est que finalement, la décision d'organiser le débat public est une décision d'accompagner un débat public qui a commencé sans doute en partie avec les Nuits Debout, avec les mouvements des places, et qui se poursuit sous diverses formes, pas uniquement dans les sphères du pouvoir, mais aussi du pouvoir politique, mais aussi dans toutes sortes de domaines qui sont les domaines de l'éducation, de la santé, les centres d'art, les centres culturels, etc., etc. Donc il y a, je pense, aujourd'hui une confiance accrue dans non seulement le débat, mais aussi la possibilité même de se parler. Clairement, quand on se parle, ça évite qu'on se tape dessus. Et éviter la guerre, et notamment la guerre civile, c'est quand même le plus grand bien qu'on peut attendre d'un État libéral et démocratique.
Alors,
on en attend beaucoup.
Je vais faire un aparté que je ne fais jamais dans cette émission pour signaler à nos auditeurs que les députés britanniques viennent de rejeter massivement l'accord sur le Brexit par 432 voix contre. On reprend le fil de notre émission. Le président de la République semble vouloir impliquer les maires et il demande notamment de mettre en place des cahiers de doléances, de mettre à disposition des salles, c'est-à-dire des moyens. C'est une contrainte, c'est une bonne, une mauvaise chose, Antoine Omé, pour vous qui êtes le premier concerné en tant que maire.
D'abord, il y a eu depuis 18 mois une période où les élus locaux, mais aussi les syndicats, ont été laissés de côté. C'est vrai que je lisais, on a eu une pratique du pouvoir national qui ne s'est pas appuyée sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires, alors qu'aujourd'hui, le pouvoir redécouvre que les maires sont les fantassins de la République, c'est plutôt bien. Nous, on n'a pas attendu que le pouvoir national le décide pour faire de la démocratie participative, on en fait tout le temps. Il n'y a aucune décision locale qui peut se prendre sans démocratie participative. Et même après, ça ne veut pas dire que tout le monde va partager la décision qui est prise, mais nous donnons beaucoup la parole à nos habitants. Alors, effectivement, notre rôle, quel est-il? Très clairement, nous pouvons être des facilitateurs par la mise à disposition de salles, nous pouvons participer au débat, mais encore une fois, ce débat, il a été décidé par le président de la République, il doit être mené par les services déconcentrés de l'État. D'ailleurs, dans mon département, c'est une sous-préfète qui est référente. Et donc, autant les maires, parce qu'ils sont des élus responsables, parce qu'ils aiment la République, ils peuvent faciliter le débat, autant c'est quand même au pouvoir exécutif national qui se retrouve dans cette situation compliquée et qui a des responsabilités d'en assumer le portage. Ça va de soi. Autrement dit, facilitateur, oui, mais nous ne serons pas, par contre, les sous-traitants de la politique du gouvernement. C'est clair.
Joël Zask, oui, vous voulez rebondir là-dessus ?
En effet, enfin, je pense que la porte est ouverte à l'organisation par d'autres acteurs que par les élus de ces débats régionaux, locaux, localisés. C'est ce qui a été dit d'ailleurs juste après les premières critiques qui ont pesé sur la lettre
d'Emmanuel Macron, oui.
D'Emmanuel Macron, puisque effectivement cette lettre non seulement fixe les sujets du débat, ce qui n'est pas une manière de débattre, puisque précisément les débats consistent aussi à sélectionner les sujets dont on va parler, mais par ailleurs fixe aussi la méthode. Donc clairement une méthode libre, une méthode à découvrir, peut-être à travers un certain nombre de tâtonnements, est sans doute souhaitable, et ça participera bien sûr du débat et de la rencontre que suppose le débat entre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler.
Alors justement, je rebondis là-dessus, Joël Zask, comment est-ce qu'un débat dont vous avez parlé, qui dure en fait depuis plusieurs années, les gens prennent la parole hein, sur les réseaux sociaux, sur les places Nuit Debout, sur les ronds-points, les gilets jaunes, comment est-ce qu'on peut le rendre un petit peu officiel sans le dénaturer ?
Bien, de toute façon, je dirais qu'en démocratie, il y a deux manières de débattre. Il y a une manière de commenter, enfin de débattre en commentant la décision publique, la décision politique, et en se situant par rapport au pouvoir, en particulier pour le critiquer, pour critiquer son action. Donc je dirais que ça, c'est un débat réactif. Et là, il y en a beaucoup. On est abreuvé de débats qui sont des réactions à des décisions prises au sommet. Et là, ce qu'a fait Macron, c'est peut-être tendanciellement de nous enfermer dans ce rôle, d'être réactif plutôt que d'être... je dirais proactif, c'est-à-dire d'utiliser le débat non pas pour réagir, mais justement pour avoir des initiatives, pour définir des nouvelles actions et éventuellement des nouvelles modalités de débattre. Mais je pense que c'est ce qu'ont découvert les Gilets jaunes sur les ronds-points, c'est peut-être ce qu'ils ont fait de mieux. C'est-à-dire de, enfin, j'exagère un petit peu, mais de découvrir...
Vous avez le droit d'avoir votre opinion.
Voilà. Bon, en tout cas, de découvrir, puisque quand même l'objectif initial était quand même de réguler, voire d'arrêter la circulation, mais ce qu'ils ont trouvé en cours de route, en quelque sorte, c'était que ils pouvaient se parler et que finalement d'être ensemble plutôt qu'isolés chacun dans sa télévision crée une espèce de plus-value sociale, psychologique, anthropologique, on pourrait dire, qui est devenue intrinsèquement précieuse à leurs yeux.
Antoine Aumé,
c'est
quelque chose qui vous remonte, vous, dans votre mairie ?
Alors, il se trouve que je suis donc maire d'une ville de banlieue avec la plus grande zone commerciale du sud Alsace. Donc voilà, c'est typique. Et j'avais beaucoup de mobilisation de gilets jaunes. J'ai reçu une délégation, et c'est tout à fait ça. J'ai vu des citoyennes et des citoyens qui n'étaient pas forcément ceux qui participaient à la vie publique ou à la vie associative, mais qui s'étaient retrouvés.
Qui n'avaient pas l'habitude de manifester.
Et oui. J'ai vu là aussi des motivations positives. Parce qu'il y a eu des infiltrations par des éléments extrémistes, on le sait, mais il y a aussi, il faut le dire, des tas de gens qui sont inquiets pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour le pouvoir d'achat. Parce que là, on a un grand débat, mais il faut quand même revenir à l'essentiel. Cette affaire est partie de la question de la fiscalité dite écologique et du fait que des millions de Français n'en peuvent plus. Entre leurs enfants qui ont des contrats précaires et eux-mêmes qui ne bouclent pas les fins de mois, la question du pouvoir d'achat, pour moi, elle demeure centrale. Elle ne doit pas être noyée dans un ensemble très vaste. On peut aborder d'autres sujets, mais au départ, il faut être sur des sujets très concrets. J'ai aussi fait des cahiers de doléances, donc à la mairie, à l'accueil de la mairie, j'ai eu pas mal de contributions qu'on est en train d'exploiter. Donc j'ai voulu donner la parole, ça me semble important. Voilà, encore une fois, les maires, depuis longtemps, ils pratiquent la démocratie participative et non seulement la démocratie représentative. Je dirais que les élus locaux ont l'habitude de ça et ont l'habitude aussi d'aborder tous les sujets.
Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de la forme de ce débat, et notamment du fait, Joël Zask, que vous avez commencé à l'évoquer, et vous aussi, Antoine Aumé, que les thèmes et les questions soient prédéterminés par le président de la République, Joël Zask?
Ça me semble être une grosse erreur de la part du président, que d'avoir effectivement voulu cadrer l'enjeu et les sujets des débats. Ce qui est intéressant en démocratie, et notamment dans ce qu'on appelle la démocratie participative ou contributive, qui ne s'oppose pas du tout à la démocratie représentative, qui en est un complément indispensable, c'est que les membres du public, c'est-à-dire les citoyens, identifient par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et de manière la plus complète fait possible les enjeux de leur vivre ensemble, c'est-à-dire leurs intérêts publics, leurs intérêts communs. Et ça, ce rôle-là ne peut pas être substituable. C'est-à-dire ce rôle incombe véritablement aux gens, disons, qu'on appelle des citoyens, parce que c'est justement par ce travail-là qu'ils deviennent... on va dire, des personnalités actives de leur propre vie. Et ouais. Donc, voilà, ça me semble vraiment important de dire que la définition des intérêts par le public, c'est-à-dire la définition par les intéressés eux-mêmes des enjeux de leur vivre ensemble, est une fonction irremplaçable.
Antoine Aumé.
Oui, alors, je vais prendre un exemple. On dit on débat de tout, mais attention, on ne remettra en cause aucune des décisions que j'ai prises, et notamment implicitement l'ISF. Or, c'est un des grands sujets qui est en débat, quelle que soit la position.
Ouais.
Oui, donc, je l'ai dit, faire de la démocratie participative suppose également ce que nous faisons, nous. Moi, j'ai des conseils de quartier, un conseil des sages. Avant de les réunir, on définit une méthodologie collective. Sinon, c'est pas un débat participatif. Donc, on peut effectivement s'inquiéter de la suite, quand on voit qu'en réalité, finalement, on avait une pratique du pouvoir très centralisée, et puis maintenant, on a une définition du dialogue qui est très centralisée. Et puis, dernier point, alors on va s'interroger sur le Parlement. Faut-il moins d'élus, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, déjà, il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir en France, le Parlement est trop faible. Enfin, la priorité de ce pays, c'est pas d'avoir moins de représentants du territoire, c'est que dans le questionnaire, il n'y a rien sur le pouvoir exécutif. Il y a un sujet qui manque, c'est le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'en fait, le président et le gouvernement interrogent sur tout, sauf sur eux-mêmes. Mmh. Et je pense que si on veut un vrai débat démocratique, il ne faut pas s'exclure des sujets du débat. Mmh. Évidemment, c'est peut-être pas tellement dans la tradition française. Mais quand on regarde autour de nous dans d'autres démocraties européennes, d'abord on définit le débat collectivement, et ensuite, y compris celui qui pose les questions, peut être sujet du débat.
Est-ce que vous avez, Joël Zask, des exemples de ce genre de consultation en Europe ou ailleurs ?
Des consultations de ce type. Enfin, je pense que dans toutes les instances participatives, c'est ce qui a eu lieu. Bon, mon domaine d'expérience est plutôt situé dans les domaines, enfin dans le champ de la culture et de l'art. Mais là, effectivement, il y a eu non seulement pas véritablement consultation, mais plutôt initiative par les personnes intéressées. Par ailleurs, bon, il y a toutes sortes de domaines, qu'il s'agisse d'enfouissement de déchets radioactifs, qu'il s'agisse de recherche sur les maladies rares et orphelines, qu'il s'agisse de toutes sortes de sujets comme ça qui impactent un grand nombre de gens, mais qui ne constituent pas un public organisé d'avance. Là, en l'occurrence, émergent effectivement des intérêts qui deviennent publics à partir du moment où ils sont largement partagés. Mais ce qui est intéressant aussi, je pense, avec cette histoire de débat public qui nous arrive, c'est qu'on voit que finalement les termes de la recherche d'un vivre ensemble n'arrêtent pas de se modifier au fur et à mesure. Et clairement, qu'il s'agisse de nos représentants au sommet ou dans les régions, qu'il s'agisse des personnes concernées, des manifestants, des gilets jaunes et de ceux qui les soutiennent ou qui les critiquent, il y a une évolution extrêmement rapide. Donc on voit que le débat transforme finalement le groupe social et le transforme vers plus d'écoute, de tolérance, d'intérêt peut-être aussi, et de compréhension. Il y a le fait de débattre joue un rôle profondément éducatif. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut rester positif, même si, disons que le coup d'envoi n'est pas exactement celui qu'on aurait souhaité.
Oui,
Antoine. Alors, moi, j'allais dire, de toute façon, la situation n'est pas réglée.
Non.
Et nul ne peut se réjouir de la situation dans laquelle est notre pays. Et donc, il faut en sortir. La question, c'est comment ? Est-ce que ce débat est de nature à nous en faire sortir, et là on peut avoir des doutes, parce que ça suppose aussi effectivement qu'on parle de tout, mais de sujets économiques et sociaux. Hein. Moi, je ne suis pas effectivement pour y inscrire des thèmes qui n'ont rien à voir. Certains voulaient y mettre le mariage pour tous, la peine de mort, et quoi encore. Il faut quand même qu'on se centre sur les préoccupations quotidiennes des Français. Mais encore faut-il qu'à la fin ça donne quelque chose. Or, il y a un an et demi, je suis maire d'une commune de banlieue. C'était pas le grand débat, mais on a été des milliers à travailler sur le plan Borloo, qui nous a donné beaucoup d'espoir. Jean-Louis Borloo a fait un travail formidable. Eh ben, à la fin, qu'en reste-t-il ? Rien du tout. Alors, c'est quand même un précédent fâcheux. C'était pas tout à fait pareil, mais c'était quand même un vaste débat, et qui concernait notamment les questions de cohésion sociale et de précarité, qui sont pas si éloignées de ça, que ça, des questions que nous évoquons aujourd'hui. Mmh. Et puis, il y a eu les mesures du gouvernement, les fameux 10 milliards, mais la question n'est pas seulement une question financière, c'est aussi est-ce qu'on a vraiment
cibler aussi les difficultés, non seulement des gens qui terminent difficilement les fins de mois, mais de l'ensemble de celles et ceux qui travaillent. Et je suis pas sûr que les réponses soient suffisantes. Bien sûr, on ne peut qu'être favorable aux mesures pour les plus précaires. Encore que la moitié des smicards sont pas concernés par la prime d'activité. Mais celles et ceux qui sont juste au-dessus, avec quelques centaines d'euros de plus, ils galèrent. Et souvent, ils sont là également, je le disais, pour aider leurs enfants. Moi, j'ai été frappé parce que beaucoup de gilets jaunes m'ont parlé non pas d'eux, mais de leurs enfants. Mmh. Et ça, c'est quand même un point qui me semble très important. Donc voilà.
Joël Zask, vous avez commencé tous les deux à l'évoquer. Comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte l'avis citoyen sans affaiblir la démocratie représentative, sans affaiblir les représentants, tout simplement?
Les représentants sont des mandataires du public. Donc plus l'avis du public est articulé...
Ils répondent de mandat en mandat, tous les 5 ans, tous les 6 ans pour les maires
De toute façon, il y a plusieurs formes de représentation, ça on va pas trop en discuter, mais clairement, notre système de représentation extrêmement indépendante, produit un cercle vicieux, c'est-à-dire que les citoyens ne se reconnaissent pas dans les avis des élus, et en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent dit. Donc il y a des formes de représentation beaucoup plus étroites, c'est-à-dire où les représentants sont plus proches finalement des représentés, ce qui ne veut pas dire qu'ils cessent d'être des représentants. Mais entre un représentant qui filtre, qui interprète, qui imagine peut-être parfois ou qui donne une forme consciente à une opinion qui serait par ailleurs inconsciente, volatile, versatile, chaotique, irrationnelle, égoïste et tout ce qu'on voudra, et par ailleurs un représentant qui se met à l'écoute de ce que disent les gens, là il y a vraiment une marge, et cette marge elle est immense en France. Véritablement, je pense qu'il y aurait intérêt à ce que les représentants fassent aussi confiance aux représentés, c'est-à-dire en même temps, créer avec eux des conditions d'expression d'une opinion qui va peu à peu acquérir une forme plus structurée que celle qu'on lui connaît lorsque chacun donne son avis de son côté, tout en prétendant que son opinion est bonne puisque c'est la sienne.
Antoine Aumé, on peut faire mieux en France de ce point de vue-là ?
Oui, alors il y a une exception dans le discrédit qui touche les élus, c'est les maires.
Les Français adorent leurs maires.
Pascal Perrineau, le sondage du Civipof, ça progresse même. Bon, pourquoi ?
Parce
qu'ils sont dans la proximité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'estiment pas, a priori, qu'une idée qu'ils ont soit forcément la bonne. La politique, c'est aussi du compromis. Mais ce dont nous souffrons dans ce pays, c'est d'une forme de concentration des pouvoirs trop importante et de l'idée aussi faire un compromis, ne pas exactement mettre en œuvre ce à quoi on pensait, c'est une défaite. Non. Moi, quand je fais un projet dans ma ville, je fais des ateliers participatifs et si, à la fin, c'est amendé par rapport à ce que nous pensions la municipalité au départ, très bien. Après, nous mettons en œuvre le rôle de la démocratie représentative. Par contre, il faut qu'elle assume son rôle. Parce que les gens veulent participer, mais ils ne veulent pas non plus qu'il n'y ait pas de décision. Mais s'ils participent intensément, ils acceptent aussi, pour la plupart, que la décision finale soit pas exactement ce qu'ils pensaient, comme les élus. Donc voilà, donc je pense que ça nous interroge aussi sur le style de pouvoir dans notre pays. Et encore une fois, je crois que la bonne solution, c'est pas d'affaiblir le Parlement et les corps intermédiaires. Au contraire, nous en manquons.
Très très rapidement, les Français aiment débattre, pour le dire clairement. Ils aiment bien confronter leurs idées. Est-ce qu'il faut offrir à ce goût un cadre institutionnel plus large, plus fréquent, permanent éventuellement, Joël Zask?
Oui, de toute façon, comme le disait Gabriel Tarn, déjà, plus on encourage la conversation, le débat et toutes les formes de contact de ce type, et plus la société sera démocratique. Je veux dire que la conversation ordinaire, de même que le débat institutionnel, sont véritablement les bases d'une démocratie libérale, il me semble. Et justement, c'est ce qui évite les excès, c'est ce qui évite, d'une part, l'agrégation des opinions individuelles qui donnent à peu près n'importe quoi, et d'autre part, ce qui évite aussi que chacun y aille de ses opinions irrationnelles au mépris de l'intérêt général.
Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci Joël Zask, merci Antoine Aumé d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez également au débat du jour sur les réseaux sociaux, toujours dans le respect. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.